Voilà, nous allons partager un sujet cet après-midi qui me préoccupe depuis quelque temps. J'observe certains comportements qui doivent m'amener à aider ces personnes-là. Alors nous allons lire quelques textes pour que vous compreniez ce dont nous allons parler. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Si quelqu'un veut une Bible, qu'il la demande, au cas où vous ne l'auriez pas menée. Hein, n'hésitez pas à la demander. C'est quand même... Moi, je trouve que c'est important de pouvoir suivre. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous fais remarquer que c'est un commandement du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Un petit peu plus loin, vous avez l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Et nous allons retrouver ce verset, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. C'est encore, c'est rajouté d'une explication. On a besoin d'explication, croyez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Vous y êtes ? Ce sont des choses très importantes. Elles paraissent simples quand on les lit pour la première fois. Mais au fur et à mesure qu'on les médite, on se rend compte combien c'est important, vous allez le comprendre. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Et regardez bien ce que Dieu ajoute. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce, c'est la volonté de Dieu. Comprendre la volonté de Dieu. Dans Éphésiens, on n'a pas lu, mais si on met au-dessus... Juste au-dessus du texte que nous avons lu tout à l'heure, il était écrit de comprendre la volonté de Dieu. Des millions de gens, même plus, tous les jours prient ou récitent le Notre Père. Lorsque nous étions dans telle ou telle dénomination ou telle religion, on nous avait enseigné à réciter les prières. Et des millions de gens prient, certains prient, certains la récitent, ça ne nous regarde pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite. Peut-être que moi, je me souviens que quand j'étais petit, il fallait le faire. Bon. Je le faisais parce qu'il fallait. On ne m'avait pas enseigné que la prière, c'était vraiment une communion avec Dieu, une relation avec Dieu. C'était comme un devoir religieux. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Et quand je me suis converti, j'ai médité le Notre Père et je me suis rendu compte qu'il fallait que nous découvrions la volonté de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Et si... Vous êtes en train de découvrir l'Évangile, si vous vous mettez à chercher Dieu, c'est quelque chose qui doit absolument vous préoccuper. À moins que vous ne soyez intéressé que par les bénédictions. Qu'est-ce que c'est qui vous préoccupe ? La bénédiction, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous bénisse encore ? Ou est-ce que, pour vous, quand même, c'est beaucoup plus sérieux de découvrir la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est important ? Que ta volonté soit faite. Nous venons de lire deux versets qui nous prouvent que la volonté de Dieu... c'est que nous lui rendions grâce. Pour discerner la volonté de Dieu, c'est plus que de réciter. Réciter, ça ne sert à rien. Et même de prier. Il y a des gens qui prient de tout leur cœur, « Notre Père, que ta volonté soit faite », mais ils ne se préoccupent pas. Paul, il dira aux Romains que pour discerner la volonté de Dieu, il faut offrir sa vie au Seigneur, qu'il faut renoncer à certaines choses. Ça va très très loin, cette affaire de discerner la volonté de Dieu. Parce que c'est important. Et nous sommes dans une société qui ne rend pas grâce. Nous sommes dans une société qui ne remercie pas, où les enfants ne remercient plus, où les parents ne remercient plus. La Bible dit que dans les derniers jours, les hommes seront ingrats. Est-ce que c'est écrit ? Est-ce que quelqu'un peut me dire où c'est écrit ça ? Dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ingrats. Ça veut dire qu'ils ne sauront pas dire merci. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus, même dans les familles, alors que c'est le béaba, le remerciement. Non ? Est-ce que vous dites merci quand on vous donne quelque chose ? Quand le boulanger vous donne la flûte de paix, est-ce que vous dites merci ? Ou est-ce que vous dites, écoute, moi, c'est moi qui paye, je ne vais pas dire merci. On l'entend ça aujourd'hui ? Ouais. Lorsque votre pasteur vous a préparé une prédication, est-ce que vous dites merci ? Vous avez intérêt. Alors, c'est un choix. Non, je blague. C'est un choix. Il y a ce souci de comprendre la volonté de Dieu. Peut-être que vous n'êtes pas encore touché par la grâce de Dieu, mais vous voulez quand même comprendre. Et en fin de compte, nous sommes toujours confrontés à des choix. Nous ne le réalisons pas toujours, mais voilà, il y a des choix. J'ai donné comme titre à ma prédication « Rendre grâce ou se plaindre ». Je voulais mettre « remercier » ou « rechigner ». Mais en fait, vous avez compris un petit peu le message que je vais vous apporter cet après-midi. Quelqu'un pourrait dire ben « Oui, mais cette prédication, qu'est-ce que ça va donner ? Rendre grâce ou se plaindre ?» Ça, je sais, j'ai compris. Je ne suis pas sûr. Parce que les comportements que nous avons ont des conséquences. Combien de gens me disent « Ah, j'ai pas fait gaffe, si j'avais su, j'avais pas vu, j'ai pas fait attention. » Mais vous voyez, ce sont des comportements qui, lorsqu'ils sont compris, nous amènent à voir les choses. Parce que, ou alors ces commandements que le Seigneur nous donne, c'est important, donc ça va nous aider. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu nous donne des commandements, c'est pour nous aider, vous êtes d'accord? Ce n'est pas pour nous tester ou pour éprouver notre obéissance ou pour voir si on est solide. On va voir jusqu'à quel point ils vont tenir. Vous savez, comme dans l'armée, on vous fait faire des marches commando avec du poids, avec les armes, avec tout, enfin, etc. Et on fait des tests et on recommence. Je ne crois pas que notre Dieu nous traite de cette façon. Je crois que tout ce que nous demande notre Dieu, c'est bon pour nous. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est écrit, ça. Les commandements de Dieu sont bons. Il n'y a que ceux qui ne sont pas encore passés par cette profonde nouvelle naissance, qui sont tout le temps en train de contester avec Dieu. Écoutez, tout ce que Dieu nous demande est bien. C'est après. Combien de jeunes filles dans mon bureau, enfin de jeunes femmes. Ah, si j'avais su, je ne me serais jamais marié avec un inconverti. Je vous aurais écouté. Parce qu'ils ont l'impression, vous voyez, que cette espèce de contrainte, non? Quand Dieu demande quelque chose, c'est toujours pour notre bien, ce n'est pas pour le sien. Donc, rendre grâce. Quelqu'un qui rend grâce, peut-être que vous pourriez donner votre témoignage et dire, mais moi, il y a longtemps que je suis dans cet état d'esprit et j'ai appris à rendre grâce pour toutes choses. Et vous pourriez certainement donner un témoignage formidable de ce qu'en rendant grâce, vous avez conservé la paix ou vous avez trouvé beaucoup de consolation. L'âme qui se plaint, est-ce que vous croyez qu'elle a la paix? Quelqu'un qui est tout le temps en train de râler, est-ce qu'il trouve de la consolation? Non, on le sait. Même un inconverti comprendrait que cet état d'esprit est soit bon ou soit mauvais en fonction du choix. Là, Jésus a dit, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Ce qui me peine profondément, c'est qu'en tant que pasteur, je vois bien qu'il y a deux sortes de chrétiens. La Bible en parle, le chrétien spirituel, le chrétien charnel, etc. Enfin, on pourrait prendre d'autres images, c'est pas nouveau. Mais nous l'observons et des fois nous en souffrons parce que quand les pécheurs sont dans les ténèbres, quand les gens sont dans le mal et qu'ils ne font que des choix mauvais, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est normal, ils sont dans les ténèbres. Mais lorsque nous avons affaire à des chrétiens qui, hélas, ne sont pas soucieux de comprendre les commandements de Dieu, sont tout le temps empêtrés dans la tristesse, c'est quand même dommage. Le Seigneur, il dit, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Dans l'Ancien Testament, c'est dit différemment. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme les flots de la mer. Ton bonheur serait comme les flots de la mer. Donc, quand Dieu dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ, c'est un commandement. Alors vous pouvez le contourner, vous pouvez l'occulter, ou vous pouvez l'écouter. Qu'est-ce que vous allez faire de ce commandement? Vous allez me dire, je le connais, je le mets en pratique, c'est bien, continuez. Mais est-ce que nous sommes tous soucieux d'améliorer cette perception des choses et de dire, c'est vrai, je vais te remercier. Parce qu'il y a des gens qui remercient Dieu, comme je disais dans les chants tout à l'heure, ils remercient Dieu à table. Un jour j'étais à table avec quelqu'un, il remercie Dieu pour le repas, puis tout le repas, il se plaignait. Parce que les frites étaient trop cuites, parce que le steak était trop cru, parce que le fromage était trop froid. Et puis, j'ai pas pu faire autrement. Ça bouillait dedans. J'ai dit, moi, si j'étais vous, je rendrais plus grâce. Parce que j'ai dit, quand on rend grâce, c'est parce qu'on est content de ce qu'on a. Bon, c'est sûr, ça a changé l'orientation de la discussion. Mais, bon, bien sûr, c'est bien quand tout est parfait, quand le steak est à point, quand les frites sont jaunes et tout. Vous êtes d'accord? Mais quand on rend grâce, je crois qu'on remercie vraiment le Seigneur. Et je voudrais vous dire que on fait des choix. Cet après-midi, vous avez fait le choix. Vous auriez pu aller voir des amis, vous auriez pu... Vous avez dit, non, j'irai dans la maison du Seigneur. C'est un choix que vous avez fait. C'est un choix. Dieu voit le choix que vous avez fait. C'est important peut-être pour vous. Et Dieu voit le choix que vous avez fait. Moi, je ne vous connais pas tous, mais Dieu voit le choix. Et je me dois de vous aider dans la façon dont vous allez appréhender un commandement du Seigneur. Quand Dieu dit des choses, c'est sérieux. Ce n'est pas un conseil facultatif. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a des choses importantes et il y a des choses qui ne le sont pas. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est toujours important. Il n'est pas écrit « résignez-vous ». Voilà, ben faites votre mieux. Il est dit « rendez grâce ». Bien sûr qu'il y a des choses, on peut se poser la question. Est-ce que ce qui est arrivé, est-ce que ça faisait partie de la volonté de Dieu? Donc est-ce que je dois rendre grâce? Il y a des choses qui nous atteignent parfois. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? On peut se poser des questions comme ça, oui ou non? Il y a des choses, tiens, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Il m'est arrivé cette tuile, j'ai fait tel choix, ça a eu telle conséquence. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Alors dans la Bible, il y a des histoires vécues, vraies, qui nous permettent de comprendre les choses. Vous connaissez l'histoire de Joseph, le patriarche? Vous connaissez cet homme? À 17 ans, ses frères ne le supportaient pas. Pourtant, c'était les descendants d'Abraham, c'était une belle famille, une super famille. Ils étaient 12 frères et ils ne s'entendaient pas. Tiens, qu'est-ce que c'est bizarre, des frères et sœurs qui ne s'entendent pas. Et donc, il y en a un qui ont commencé à le jalouser, etc. Le temps a passé, en plus, il a fait des rêves qui le mettaient au-dessus des autres, ça ne va pas beaucoup plus. Et voilà qu'un jour, quand ils l'ont vu arriver dans un champ, ils ont comploté l'idée à cause de la jalousie de le... Avant de le vendre, ils avaient comploté mieux encore. Oui, avant de le vendre, ce qui était déjà moindre mal, ils avaient consulté de le tuer. Vous rendez compte? La jalousie, la méchanceté, la haine, l'envie de meurtre, est-ce que tout ça, c'est la volonté de Dieu? Non. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est opposé à la volonté de Dieu? C'est bien ça. Donc, si dès le début, Joseph avait su comment les choses allaient tourner, comment aurait-il réagi d'après vous? Si Dieu lui avait dit, écoute, tu sais, demain tu vas partir dans le champ, tes frères ne vont pas très bien t'accueillir. Et ça va très mal se passer, mais à cause de ça, tu seras premier ministre en Égypte dans 13 ans. Joseph, est-ce que ça te va? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Merci. C'est bon. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Aidez-moi. Il n'y a pas que moi, que vous qui êtes sur la gestion. Qu'est-ce que vous auriez dit? Merci. Bon, il va falloir le digérer. Mais Seigneur, merci. Oui ou non? Et quand vous regardez, on peut lire, regardez avec moi dans Genèse 50. C'est pour ça que c'est bien de lire la Bible et de noter les textes. Prenez l'habitude de venir avec votre Bible. Prenez l'habitude et de noter les textes. Genèse 50, au verset 20. Le fait de comprendre que même ce qui n'est pas dans le plan de Dieu peut concourir à notre bien. Genèse 50, verset 20. Vous y êtes? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Et vous pouvez dire amen. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé à bien. Et ailleurs, il dira, mais c'est pas vous. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Tout ça pour vous expliquer que même quelque chose qui, à l'origine, ne fait pas partie du plan de Dieu, peut se transformer en bénédiction. Est-ce que ça, vous le croyez? Parce que c'est important si vous le croyez. Vous comprenez que vous aurez moins de mal à céder à ce commandement d'apprendre à rendre grâce en toute chose. Dieu a-t-il le pouvoir de changer les temps et les circonstances? Est-ce que c'est écrit ça quelque part dans la Bible? Est-ce qu'un homme un jour a dit que Dieu changeait les temps et les circonstances? Si je ne me trompe, c'est dans Daniel, on peut le lire. C'est des versets que vous devez apprendre par cœur. Vous savez, quand Dieu dit, mais tu les graveras dans ton cœur, je les écrirai sur la table de ton cœur. C'est comme ça, après, que le Saint-Esprit nous rappelle les textes bibliques. Si vous regardez avec moi, regardez, Daniel chapitre 2, verset 21. D'ailleurs, j'avais envie qu'on chante ce cœur tout à l'heure. En son temps, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Daniel chapitre 2, verset 21. Dans des circonstances vraiment difficiles, regardez ce que Daniel dit, Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il change les temps et les circonstances. Est-ce que ça, vous le croyez? Parce que, imaginez-vous que je m'applique à vous expliquer qu'un commandement si simple, mais si avec des répercussions aussi importantes, est important, mais si vous ne le comprenez pas, vous allez le faire d'une manière mécanique, comme avant, quand on récitait des prières, parce qu'on nous demandait de les réciter. Alors, il y a des prières peut-être catholiques, récitées, mais vous savez, n'allons pas trop vite, parce qu'il peut y avoir des prières pentecôtistes, toutes récitées pareil. Croyez-moi, et que je crois qu'il faut le comprendre. Si ce que je vous dis, vous ne le comprenez pas, vous devez dire, Seigneur, mais éclaire-moi, convainc-moi, si c'est si important que ça, parce que nous allons voir quand même que cette attitude de cœur permet à Dieu d'ouvrir les portes. Et que le fait de se plaindre n'est pas propice à ce que des bonnes portes s'ouvrent. Alors est-ce que Dieu, oui, peut changer les temps et les circonstances? Est-ce que c'est vrai que Dieu peut faire concourir toutes choses à notre bien? Mais comment pourrons-nous vivre ces choses si nous nous comportons mal? Nous allons verrouiller le problème. Et après, bien sûr, il y en a qui me disent, non, monsieur, c'est pas vrai. C'est pas vrai que toutes choses concourent au bien. Oui, vous avez raison, c'est pas écrit ça. C'est pas écrit que toutes choses concourent au bien. C'est écrit. Plus précis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que toute chose ne concourt pas au bien, mais elle concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui aiment Dieu se caractérisent par le fait qu'ils respectent la parole. Et si je vous dis, parce que quand même c'est sérieux, que ce verset, c'est pas une option facultative, c'est un commandement qui fait que des portes peuvent s'ouvrir, parce que si vous doutez que des portes peuvent s'ouvrir en rendant grâce à Dieu, je vais quand même vous montrer, peut-être pas aujourd'hui, mais que des portes se ferment quand on se plaint. Dieu peut changer toutes les choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous demande de considérer les épreuves comme un sujet de joie. Bon, ça sur le moment, c'est comme si on vous disait, tu vas te faire opérer, demain on va t'amputer d'une jambe, ben, réjouis-toi. On ne se réjouit pas de l'opération, on se réjouit des résultats. Si l'opération doit me permettre de rester en vie, mais je ne me réjouis pas de ce qu'on va me scier la jambe. Je pense quand même que... Mais je sais qu'il y a une bénédiction dans les conséquences de l'opération. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Dieu accorde sa grâce. Et il peut utiliser n'importe quelle épreuve, à condition que justement nous comportions sérieusement. Ça ne sert à rien, Seigneur, je veux faire ta volonté. Moi je vois, écoutez, je veux blesser personne. Mais souvent on entend des gens qui prient, Seigneur, je veux faire ta volonté. Seigneur, tu le vois, c'est plus fort que moi. Je veux faire tout ce que tu demandes, je te le ferai, etc., etc. Puis à la fin, puis après on discute, mais vous savez, vous devrez rendre grâce. Ah non, non, écoutez-moi, rendre grâce. Vous voyez le décalage qu'il y a entre un désir qui est vrai, mais un comportement qui est vrai aussi et qui n'est pas bon du tout. Et il faut que nos propos soient en adéquation avec nos actes. Ça, c'est important. Rendre grâce. Rendre grâce, c'est quoi? C'est faire confiance à Dieu. Quelqu'un qui rend grâce, il prouve qu'il a confiance. Vous êtes dans une épreuve, vous dites, Seigneur, écoute, je choisis de te faire confiance. Vous croyez que ça plaît à Dieu, ça? Quand quelqu'un est dans les pas, que Dieu entend. Est-ce que Dieu pénètre de loin toutes nos pensées? C'est ce que c'est écrit dans quel psaume? 139. Se plaindre ou rendre grâce. Beaucoup de chrétiens ne rendent pas grâce. Alors le problème s'aggrave. Et j'en ai marre. Et je me plains. Et lisez le livre des Nombres. Écoutez, lisez le livre des Nombres. Lisez-le avec cette pensée que je suis en train de vous développer. Regardez avec moi dans le livre des Nombres, chapitre 11. Il faut lire ce livre pour voir le nombre de fois où le peuple s'est plaint. Vous savez ce qui est arrivé au peuple d'Israël à cause de leur plainte? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un peut me le dire? Ils sont morts dans le désert. Ils auraient dû rentrer dans le pays de la promesse et ils n'ont pas arrêté de râler, pas arrêté de se plaindre. Nombre 11, verset 1. Le peuple murmura. Oui, parce qu'on peut se plaindre à haute voix, mais on peut se plaindre aussi intérieurement. On serre les dents. Oui. Le peuple murmura et cela déplut à l'Éternel. Alors regardez la réaction de Dieu. Quelqu'un pourrait me dire, mais moi je trouve que la réaction est complètement démesurée. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Vous trouvez pas, sérieusement, répondez-moi. Ils font que murmurer. Bon, on pourrait dire, attends, mais il n'y a pas mort d'homme. Ils murmurent, ils râlent, ils se plaignent. Et la colère de Dieu s'enflamme. Moi, je vous assure, on voit plusieurs fois dans la Bible ce texte, enfin, ce genre de situation, il y a une réaction, c'est pas un péché grave, je veux dire, murmurer. Et la colère de Dieu s'enflamme. Et je vous assure, moi, j'ai questionné Dieu là-dessus, mais j'ai vite compris. Pourquoi la colère de Dieu s'enflamme? Parce que quand on murmure, quand on se plaint, l'œuvre de Dieu est arrêtée. Et la colère de Dieu s'enflamme parce qu'il ne peut plus faire son plan. Vous comprenez ce que je veux dire? On pourrait dire que c'est pas proportionnel. C'est pas normal. Mais parce que l'œuvre de Dieu est arrêtée quand on commence à se plaindre, à râler, à murmurer, etc. Alors on pourrait prendre d'autres textes. Il faut lire ce texte. Et puis après, en plus, quand il murmure contre Moïse. Il murmure contre Aaron. Mais quand Dieu prend la parole, il ne dit pas, mais c'est pas contre toi qu'il murmure. C'est pas contre Moïse qui murmurait, c'était contre Dieu. Alors c'était facile de dire, ouais, c'est Moïse, il va pas bien et tout, il nous a conduits là. Mais est-ce que c'était Moïse qui les avait conduits ou est-ce que c'était Dieu? Et on a vite fait souvent de se plaindre, oui, c'est la faute au ministre, c'est la faute au président, c'est la faute au parti de droite, c'est la faute au parti de gauche, c'est la faute à ma femme, c'est la faute à mon mari, c'est la faute à mon patron, c'est la faute à mes enfants, s'il n'y a personne, c'est le chat qui a traversé, qui m'a énervé. Enfin, je vous dis, non mais, ça vous fait rire, mais c'est pas vrai. On trouve toujours la faute de quelqu'un. On met la faute sur quelqu'un. Et quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que l'œuvre de Dieu, elle est arrêtée quand on se plaint. Et beaucoup de chrétiens se demandent, mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi les portes se ferment? Eh bien parce que quand on murmure, ça déplaît à Dieu. Parce que c'est la preuve qu'on ne lui fait pas confiance en vérité. Vous dites, oh mais c'est pas méchant, j'ai pas commis l'adultère, j'ai pas regardé un programme pornographique, j'ai pas tué quelqu'un. Oui, mais l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire lorsqu'on murmure. Et vous verrez, ils sont tous morts dans le désert. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été en enfer, mais ils n'ont pas pu rentrer dans les promesses de Dieu. Quand Dieu dit « rendez grâce continuellement », ça veut dire le matin quand on se lève. On a chanté tout à l'heure « du lever du soleil ». Vous vous rappelez? C'est moi qui l'avais chanté, vous devez vous en rappeler. « De lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'éternel Dieu ». Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ce matin, quelle est la première chose que vous avez fait en vous réveillant? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous en rappelez? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes peut-être vous êtes préparé un café. Est-ce que c'est une grâce d'avoir un café? Vous savez combien d'enfants meurent par jour dans le monde? De soif? Même pas de faim, de soif. Toutes les 20 secondes, il meurt un enfant à cause de la soif. Est-ce que c'est un bienfait de boire un café? Quand on chante certaines choses, et on devrait s'y appliquer. Parce que je vous le dis, on n'aura pas le temps de tout voir, Mais on vient de voir cette colère de Dieu qui s'enflamme, ça paraît tellement disproportionné. Et pourtant, je vous assure que ça empêche l'œuvre de Dieu de se faire. Parce que Dieu ne se met pas en colère comme ça pour se mettre en colère. Il savait que parce qu'il murmurait, et quand il y avait de l'eau, quand il n'y avait pas d'eau, il râlait. Et quand il y en avait, il râlait parce qu'elle était amère. Puis quand Dieu l'a changée en eau douce, il râlait parce qu'il n'y avait pas des palmiers. Et ainsi de suite. Après, il regrettait l'Égypte. Vous savez, quand on en arrive à regretter le monde, je lisais dernièrement un témoignage d'un gars, d'ailleurs, il faudrait que j'écrive à ce gars, qui regrettait le temps où il allait dans les bistrots. Chrétien. Moi, je pense que quand on arrive à regretter le temps où on était dans les ténèbres, moi, il me semble, il a écrit ça dans un bouquin. Moi, il me semble qu'on est en danger. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté les bistrots, mais ce n'est pas des lieux de bénédiction. Et quand ils ont commencé à regretter les pots de viande en Égypte, je peux vous dire que le verdict était fixé. Ils allaient tous mourir dans le désert. C'est eux qui se sont punis. C'est eux. Vous croyez qu'il y en a un qui, dans le ciel, peut dire à Dieu, oui, c'est à cause de toi. Non. C'est nous qui tournons en rond. Et on pourrait dire, mais les Hébreux, moi, je ne me plains pas. Mais nous devrions réfléchir à tout, à toute chose. Si Dieu dit « rendez grâce en toute chose », peut-être qu'encore vous êtes dans une situation. « Seigneur, j'accepte de me retrouver dans cette situation parce que je veux être prêt à ta bénédiction. Rendez grâce continuellement. » Est-ce que vous êtes d'accord pour y réfléchir? Dire « Seigneur, je vais le noter. » Et je vais commencer, moi je commence chaque... Vous savez, je peux me permettre de le dire, ça fait 12 ans qu'il est là, Dimitri, ça fait combien que tu es ici? Hein? 13 ans. Il le sait, tous les matins quand je me lève, tous les matins, je sors du lit et je dis merci. De suite. Je n'ai pas les yeux ouverts, je pense à Dimitri et je me dis quelle grâce d'avoir des pieds, des bras, des mains, des jambes. Est-ce que c'est une grâce de pouvoir bouger? Et pour tout. Et à cause de Dimitri, j'ai dit à Dieu, et je pèse mes mots, des centaines de milliers de fois, merci, que j'aurais pas eu, que j'aurais pas fait si j'avais pas peut-être connu Dimitri. Pour tout. C'est un commandement. Dieu le sait. Il y a une grâce derrière, il y a une faveur, il y a un secret, il y a un mystère, il y a une grande bénédiction. Et lisez le livre des Nombres, et vous verrez le nombre de fois où ils se sont fait piéger. Parce qu'en fin de compte, quand on n'accepte pas une situation et qu'on se plaint, c'est contre Dieu qu'on se plaint. Mais ça, il faudrait prendre le temps de l'expliquer. On ne comprend pas la volonté. Job. Est-ce qu'il avait des raisons de se plaindre? Tiens, on va lire un verset. Quelqu'un me disait dernièrement, oh, je suis dégoûté de la vie. Ah bon? Eh bien, j'ai dit, tiens, vous n'êtes pas le premier. Job 10, Évangile de Job. Job 10, regardez ce que cet homme, dans l'épreuve qu'il traverse, fait. L'épreuve était quand même sévère, je vous avoue. Regardez ce qu'il dit, Job chapitre 10, verset 1er. Mon âme est dégoûtée de la vie. Vous avez votre Bible? Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte, je parlerai dans l'amertume de mon âme. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce verset? C'est dans la Bible. Moi, je crois que Dieu a voulu que certaines paroles douloureuses soient dans la Bible pour que nous comprenions les gens qui sont dans la souffrance. Vous êtes d'accord avec moi? Il a quand même dit, c'est écrit, Dieu aurait pu dire, non, mettez surtout pas ça dans la Bible, ça va pas. Je suis dégoûté. Moi, je crois qu'il peut y avoir des moments parce qu'on ne comprend pas où on est dégoûté de la vie. Mais si Job, lui aussi, avait su la fin, est-ce que vous croyez qu'il aurait pu dire, bon Seigneur, donne-moi du courage pour arriver jusqu'au bout de l'épreuve. Mais Seigneur, je te fais confiance. Et toutes ces choses, bien sûr qu'on comprend, il faudrait faire le livre de Job, c'est un puissant fond au niveau de l'enseignement et de la connaissance. Mais d'un côté, on comprend la souffrance, Et on n'a pas à juger quelqu'un qui vous dit « Ouais, j'en ai marre, je suis dégoûté, etc. » Parce qu'après tout, ça peut arriver dans une épreuve. Mais en même temps, il faut comprendre que nous, on a la parole de Dieu, on a une révélation qui doit être progressive au fur et à mesure qu'on lit la Bible, au fur et à mesure qu'on découvre la parole de Dieu. On devrait quand même mûrir. Paul dira aux Corinthiens « Mais je comprends pas, vous devriez être des hommes et vous êtes encore des enfants. » Il y a des chrétiens, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont convertis, ils ont un comportement de bébé spirituel. Et c'est quand même dommage, parce qu'ils ne sont pas sérieux, c'est pas sérieux. Lorsqu'on est sérieux avec Dieu, on lit un texte, on dit, bon, c'est vrai, voilà, Seigneur, tu me parles cet après-midi, bon, mais je vais le graver dans le disque, je vais apprendre à te rendre grâce. Job, s'il avait connu au début de l'épreuve ce qui allait arriver, regarde avec moi dans le psaume 78. Dans le psaume 78... Dans le psaume 78, au verset 21, ça aussi, vous pouvez le lire en entier ce psaume. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui me disent, je ne sais pas quoi lire. Psaume 78, verset 21. Regardez bien, alors il faudrait tout lire. Franchement, dans le cadre de cette prédication, il faudrait le lire en entier. Mais comme il n'a que 72 versets, on ne va pas le lire. Psaume 78, verset 21 et 22. L'Éternel entendit, il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, la colère s'éleva contre Israël, parce que ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Voyez, le problème, il est là. C'est un problème de confiance. Pourquoi un homme peut-il rendre grâce à Dieu, ou alors il le fait, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, bêtement, mécaniquement, par automatisme, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Monsieur Gou, il a dit qu'il fallait dire merci Seigneur. Alors je dis merci Seigneur. Ne le faites pas. Mais il faut le faire dans un esprit de confiance. Et ils se sont fait avoir parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas eu confiance. Ils n'eurent pas confiance dans son secours. Regardez dans le psaume 69. Dans le psaume 69, les psaumes sont riches d'enseignements là-dessus. On voit de suite la différence. Verset 31. Dans l'épreuve, croyez-moi, il y avait de la difficulté. Si vous lisez le psaume en entier, là aussi, vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire. Si vous regardez le verset 3, le verset 2, « Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre. Les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. » Enfin, on sent qu'il y a la pression quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, on le sent. Et regardez pourtant, verset 31, « Je célébrerai le nom de mon Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. » Regardez bien la suite. « Cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. » Offrir, dans le cadre de l'Ancien Testament, un taureau, c'était un gros sacrifice. Oui ? Hein? Bon, il y avait les pauvres qui offraient des tourterelles ou des pigeons, mais lorsque quelqu'un se pointait au temple avec un taureau de 800 kilos, c'était quand même le gros sacrifice. Alors, peut-être que les pauvres, ils disaient, « Ah, oh, j'ai pas l'air bête avec mes deux pigeons, là. » L'autre, il vient avec un gros taureau, là. Et vous voyez, Dieu, il fonctionne pas pareil. Ce qui plaît à Dieu, c'est pas les gros sacrifices qu'on fait de temps en temps. « J'ai fait ce truc à Dieu, c'est formidable. J'ai fait une offrande à Dieu ce mois-ci. Je te dis pas la somme, je te le dis pas. » Il vaut mieux rendre grâce à Dieu tous les jours, tout le temps, que de temps en temps, par réaction, d'offrir un gros sacrifice. Enfin, c'est quand même, vous le comprenez comme moi? Est-ce que vous le comprenez comme moi? On le relit par rapport à ceux qui sont sceptiques, je le vois dans vos regards. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges, cela est agréable à l'Éternel plus qu'un taureau. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, être rectiligne, être régulier dans sa louange continuelle, Seigneur, je te remercie, je ne peux pas t'offrir de grosses sommes d'argent, je ne peux pas t'offrir de gros taureaux, je n'ai pas les moyens. Mais voyez, Dieu, il préfère cette régularité dans la louange. Seigneur, je te loue. Je te remercie. Merci pour mes jambes. Merci pour mes bras. Merci pour mes yeux. Moi, tous les jours, je pense à Natacha. Le matin, quand je vais dans mon bureau, que je vois le jour se lever, que je vois les Pyrénées en face, je pense à Natacha. Et je dis, Seigneur, merci pour les yeux. Il y a des millions d'aveugles sur Terre. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions d'aveugles? En Afrique, à cause des problèmes de santé, rien qu'en Afrique, il y a des millions d'aveugles. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des yeux. Je trouve que c'est bien d'entendre les oiseaux chanter, d'avoir des yeux, d'entendre. Et si on se met à compter les bienfaits, on n'est pas sorti de l'Église. Est-ce que ce n'est pas un psalmiste qui nous demande de le faire, d'ailleurs? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Franchement, je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a fait, le brave. Je me doute qu'il était exceptionnellement capable, mais moi, je crois qu'on n'est pas capable de les compter tous. Tellement ils sont nombreux. Je racontais à Jérémie que j'ai lu l'autre jour une histoire, justement, dans un livre missionnaire, et il y avait une jeune fille qui était chrétienne et qui avait sa grand-mère qui était chrétienne aussi. Enfin, elle était chrétienne. Hein. Elle allait à l'église. Et elle lui dit, tu sais, mamie, on a eu une journée missionnaire et on nous a conseillé de prendre une boîte et de mettre chaque fois une pièce pour être une pièce pour l'action missionnaire, chaque fois qu'on réalisait que Dieu nous accordait un bienfait. Alors la fille, elle est passée, c'était le dimanche. Le dimanche après, elle revient. Elle dit, alors, mamie, t'as mis une pièce dans la boîte? Elle reprend la boîte, il n'y avait rien dedans. Ah, tu sais, pourtant, mamie, aujourd'hui, on a eu une réunion missionnaire et il y avait un pasteur qui revenait d'Inde et il a expliqué la condition des femmes en Inde, comment elles souffraient. Alors, elle a expliqué. Et quand sa petite fille est partie, elle a pris une pièce. Elle a dit, Seigneur, quand même, je te remercie de m'avoir fait naître dans ce pays. Et je donne une pièce. Puis une semaine. Puis le lendemain, elle a réussi à vendre des affaires. C'est pas une grand-mère qui était très riche, mais elle a réussi à vendre des affaires qu'elle avait depuis un moment. Elle dit, quand même, j'ai pu mettre un peu de beurre dans les épinards. Allez, je vais donner une petite pièce pour l'œuvre de Dieu. Et à la fin de la semaine, il y avait quand même une bonne quinzaine de pièces dedans. Mais moi, je vous pose une question. Si vous deviez mettre une pièce chaque fois que vous êtes conscient d'un bienfait du Seigneur, combien de pièces y aurait-il à la fin de la journée? Une? Cinq? Jérémie l'a dit cinq. Non. Le salaire, ouais, c'est clair. Moi je veux bien, mais je vais dire au conseil d'administration, il va falloir gérer sur le salaire. Parce que ça va y aller. Mais c'est vrai, elle est bien cette histoire. Parce qu'elle nous montre, et pourtant c'était une chrétienne. Mais voyez, elle râlait de tout, du temps, de la nourriture, elle râlait de tout. Que Dieu soit béni pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. Voyez dans le psaume 69, peut-être, oh, j'aimerais faire de grandes choses pour Dieu. Soyez réguliers dans votre louange et dans votre reconnaissance. Le culte, c'est pas le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Le culte, c'est toute notre vie qu'on offre à Dieu en reconnaissance. Eh oui. Beaucoup de gens sont prêts peut-être à faire un gros sacrifice, mais Dieu préfère autre chose. La Bible parle d'actions de grâce. Offrez sans cesse des actions de grâce. La Bible dit que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Regardez avec moi Hébreux 13, c'est dans le Nouveau Testament. Nous exhortons, nous les pasteurs, comme tout à l'heure, après les cantiques collectifs, nous encourageons les gens à prier à haute voix. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Pourquoi il faut le faire? Est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie d'entendre des gens prier? Est-ce que c'est normal d'encourager les gens à louer Dieu à haute voix? Si vous avez un doute, lisez les cinq derniers psaumes. C'est tout. Vous lisez les cinq derniers psaumes et vous verrez si Dieu demande qu'on le loue à haute voix. Hébreux 12, 2, 13, verset 15. Dans le verset 12, c'est un autre verset. Mais là, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il n'est pas dit le dimanche au culte. Offrons sans cesse à Dieu. Amen. C'est ça qui plaît à Dieu. Il est dit ailleurs. Oui, mais c'est là, le verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. D'ailleurs, je vais préparer une prédication sur tous les textes où il est dit « Dieu prend plaisir à ». Ça vous intéresse? moi, je crois que ça va être très intéressant. Qu'est-ce que c'est qui procure du plaisir à Dieu? Eh bien, voyez, cette louange continuelle, ça plaît à Dieu. Je reviens à mon psaume 78, parce que c'est la preuve qu'on lui fait confiance. Qu'est-ce que c'est triste de voir des gens bénis, ben, les dix lépreux. Jésus, là, il en a vu un revenir. Et il a dit, ben, ne s'est-il trouvé que ce Samaritain pour revenir et donner gloire à Dieu? Il n'y en a qu'un. Ça n'a pas changé. Je crois que Dieu l'a voulu, ça. 1 sur 10. Je crois que sur 10 personnes bénies, il n'y en a qu'un qui est reconnaissant. Il dit merci sur le moment, bien sûr. Mais après, c'est fini. Ça, c'est une espèce de loi, mais c'est comme ça. Est-ce que vous avez déjà observé des enfants qui ne remercient jamais? Comment vous trouvez ces enfants? Charmants et agréables? Vous avez vu comment c'est désagréable, quelqu'un qui ne dit pas merci, un enfant qui ne sait pas dire merci? Mais qu'est-ce que Dieu pense quand on ne lui dit pas merci? Ce soir, vous allez vous coucher, peut-être que vous avez un toit, un logement, un appartement, un lit, une couette, un oreiller. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Que même lui, à un moment donné, il n'avait même pas un coussin pour reposer sa tête. Est-ce qu'il aurait pu avoir des coussins, le Seigneur? Est-ce qu'il aurait pu dire au Père avant de descendre, écoute, moi je veux bien, mais naître dans une crèche, c'est pas mon truc, moi je voudrais naître dans le palais d'Hérode, moi ça me va bien. Il s'est fait pauvre pour nous bénir. Et je crois que ça vaut la peine de dire merci Seigneur pour l'oreiller. Je me souviens, je vous l'ai déjà dit, mais j'étais dans une colo et justement j'enseignais les enfants. Pourquoi vous dites merci à Dieu? Ah oui, pour le repas. Oui, c'était que le repas. Pour le repas, parce que les parents, ils rendent grâce à table. J'ai dit, et pour la couette? Il y a un gosse qui s'écrit, il a ri. Oh, la couette, n'importe quoi. Mais vous savez les gosses quand ils sont spontanés, là, qui vous préparent bien la réunion. Et je lui ai dit, mais tu sais que tous les jours, sur terre, il y a des enfants de ton âge qui meurent de froid parce qu'ils n'ont pas de couverture. Le gosse, il s'est rassis, pardon. Mais je crois qu'il faut l'enseigner, ça. Que nous sommes continuellement au bénéfice des bienfaits de Dieu. Et je le répète, parce que je veux terminer avec cette pensée, parce que vous pourriez dire, bon, il a développé une pensée, c'est bien, ça tient debout, c'est biblique. Mais ça ouvre les portes. Vous entendez, les frères? Ça ouvre des portes. Parce que quand on fait confiance à Dieu, ça plaît à Dieu. Et quand ça plaît à Dieu, on est dans un bon état d'esprit. Et quand on est dans un bon état d'esprit, Dieu, il nous ouvre les portes. Et quand on est dans un mauvais état d'esprit, où on ronchonne sans cesse, ça ne plaît pas à Dieu. Et on se ferme les portes. On s'enferme dans un désert. C'est pour ça que nous soyons vrais quand on loue le Seigneur. Merci pour le salut de mon âme. À haute voix, il n'y a rien de plus facile que de le faire à haute voix. Mais quand on est dans la rue et qu'on est tout seul, est-ce qu'on dit merci Seigneur pour la patience que tu m'apprends le lundi matin à 8h30 sur la rocade avec tous ces automobilistes qui sont très près de moi? Est-ce que vous aimez apprendre la patience? C'est pas facile la patience. Mais est-ce qu'on peut dire Seigneur merci, merci dans le bouchon du matin? Vous verrez comment tout change. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'ouvre des portes. Est-ce que vous avez envie que Dieu vous bénisse? Parce que quand même, on n'est pas, même si on ne cherche pas la bénédiction, on n'est quand même pas de ceux qui crachent dans la soupe. Et je crois que vous devez prendre au sérieux cette prédication. Il n'y a rien de plus simple. N'importe quel pasteur aurait pu, même jeune pasteur aurait pu apporter ce que j'ai apporté. Il n'y a rien de plus simple. Mais croyez-moi, la porte s'ouvrira dans bien des domaines si nous apprenons à rendre continuellement grâce à Dieu pour toute chose. Nous poursuivrons ce sujet parce que je crois qu'il mérite d'être approfondi, même si c'est tout simple, c'est bien profond. Est-ce qu'on peut se recueillir quelques instants, hein, et peut-être rendre grâce? Vous êtes d'accord de rendre grâce à Dieu pour cette prédication? Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Tu nous l'as donnée. Tu nous l'as donné dans notre langue, merci Seigneur. Quelle grâce, encore un bienfait d'avoir ta parole en français. Merci pour ceux qui l'ont traduite. Merci Seigneur pour ceux qui ont permis qu'elles soient imprimées. Merci Seigneur pour ce culte de cet après-midi. Seigneur, oui, nous voulons imiter le roi David qui te bénissait pour tous tes bienfaits. Et Seigneur, nous ne savons pas comment il avait réussi à les compter tous, mais nous voudrions véritablement ne pas passer à côté de chacun d'eux. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce commandement de ta parole. Nous te le demandons afin que rien ne t'attriste, afin que nous ne nous fermions pas des portes. Et je te prie particulièrement, Seigneur, pour tous ceux qui vivent dans cette espèce de résignation, dans la plainte, Seigneur, qui vivent dans cette espèce de malheur intérieur, libère-les de cette plainte, afin que tous nous puissions voir des portes s'ouvrir, voir ta gloire se manifester. Nous ne voulons pas, comme ces Hébreux, mourir dans le désert. Même si tu es notre Dieu, même si tu es notre Père, non, nous voulons découvrir les promesses, entrer dans les plans et les projets que tu as pour chacun de nous. Seigneur, garde-nous soucieux de ces choses, que ton nom soit béni. Amen.